L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
Bonjour et bienvenue dans cette heure de pointe, c'est votre magazine de fin de semaine, une émission qui vous conduit gentiment mais sûrement en week-end en abordant des sujets de société divers chaque semaine. Je suis bien accompagnée pour mener cette émission puisque, comme à l'accoutumée, j'ai à mes côtés Andy Barejo du journal La Dépêche Nouvelle République et le diacre Gérard Crozat. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Cette semaine, je vous propose d'aborder un thème qui relève à la fois de l'école, de l'éducation, de l'enfance, de l'environnement, de la gestion des finances d'une municipalité, de santé. Il s'agit, vous devinez peut-être, de restauration scolaire.
L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
Et pour parler de cette restauration scolaire, cette fameuse restauration scolaire, nous recevons monsieur le maire d'Ibos. Bonjour Denis Feignet.
Bonjour.
Et vous êtes venu avec Gisèle Vincent qui est, vous êtes adjointe dans cette ville d'Ibos en charge de l'enfance et de la jeunesse. Merci d'être venu également dans ce studio. Alors nous vous recevons parce
Bonjour.
Que depuis 2017, vous avez en tant qu'élu investi du temps, de l'énergie, de l'argent pour les enfants qui sont scolarisés dans votre ville, dans cette ville d'Ibos, et pour qu'ils puissent manger bio et ou local, comme quoi c'est possible, et vous nous expliquerez pourquoi vous avez fait ce choix et puis comment vous y êtes parvenu surtout. Mais pour le moment, dans la première partie de cette émission, nous allons revenir sur l'actualité de la semaine et nous faisons un petit tour de table pour savoir ce que vous avez retenu de l'actualité de la semaine, messieurs. On commence avec vous, Gérard Crozat.
Alors, c'est l'actualité, sans être à l'actualité, mais j'ai écouté une autre radio, j'espère que vous me le pardonnerez, dans ma voiture.
Ça et... commence bien, chaque semaine vous avez quelque chose de particulier à nous raconter.
J'ai écouté une publicité pour un livre qui vient de sortir, fait par deux scientifiques, et ce livre prouve l'existence de Dieu. Alors, moi, ça me gêne un peu, parce que prouver, on peut croire ou ne pas croire, mais prouver l'existence de Dieu, moi, me paraît quelque chose de très difficile, parce que la foi est par définition inhérente à la liberté. Et si on prend les évangiles, on s'aperçoit que, crois-tu cela ? Oui, je le crois, Saint Thomas est bien notre jumeau, c'est pas pour rien. Et nous sommes des croyants. Nous ne sommes pas des croyeurs, j'invente le mot, mais et vous me pardonnez pour ce néologisme, mais nous sommes des croyants. Ça veut dire que c'est avant tout, on va parler de l'école, donc c'est un participe présent qui est devenu un nom. Et un participe présent, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Et je crois qu'être croyant, mais si je suis croyant maintenant, je serai croyant tout à l'heure sans doute, etc. Et ça engage ma liberté. Et je peux être en face de quelqu'un qui n'est pas croyant et qui est libre de ne pas croire. Après, moi, je me dis, au paradis, il sera surpris. Mais ça, c'est ma foi. Mais je trouve difficile de pouvoir prouver l'existence de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu surpris. Même si moi, je peux, dans ma foi, effectivement, discerner la présence de Dieu à travers les événements, à travers... Ce que je peux, oui, voir dans le quotidien, dans le monde d'aujourd'hui, et dans ce qui pousse, et puis les enfants qui naissent, etc.
Qu'est-ce que vous en pensez de ça,
Andy Barejo ? Moi, j'en pense surtout que c'est un peu attentatoire au fondement un petit peu de notre laïcité, quand même. Moi, je suis très, très passionnément attaché à ça, à la liberté de croire, mais aussi de ne pas croire, qui appartient à chacun et qui ne devrait justement appartenir qu'à chacun et ne devrait pas avoir de place publique, entre guillemets, parce que je trouve que ça appartient à l'intime. Et c'est quelque chose qui, justement, à laquelle on donne finalement une importance publique qui dépasse en fait finalement peut-être l'importance que chacun y attache personnellement et je trouve ça un petit peu dommage. Quelles que soient les religions, quelles que soient les non-religions, voilà, c'est très bien qu'on vive tous ensemble, chacun avec ses croyances ou pas, ou ses non-croyances, mais que voilà, on arrive quand même à prouver ça en France, qu'on peut y arriver. Voilà, on n'a pas forcément besoin de se questionner, savoir si Dieu existe ou pas. Chacun est libre de se faire son choix et d'y trouver ce qu'il y cherche ou ce qu'il n'y cherche pas d'ailleurs.
Donc pour vous, Gérard Croza, en fait, cette différence entre entre croire et savoir, en fait, qui vous chagrine dans cet ouvrage.
C'est ça qui me chagrine. Mmh. Parce que je veux d'abord rester libre, c'est ce que dit Andy, mmh. en fait. Et donc, moi, j'engage ma liberté dans cette foi. Je suis croyant, oui. J'engage ma liberté dans cette foi. Ceci dit, je ne vais pas obliger l'autre à plus forte raison, le condamner sous prétexte qu'il ne partage pas mes propres convictions.
Merci pour ce partage, en tous les cas, Gérard merci. Croza. Alors, Andy Barégeau.
Moi, je voulais. Alors, c'est un thème qui revient un petit peu, qui touche à celui qu'on vient d'évoquer. Je voulais parler de l'eau, moi. Alors, l'eau bénite, mais aussi l'eau un petit peu maudite en ce moment dans pas mal de territoires de l'Hexagone. Depuis pas mal de mois, d'ailleurs, puisqu'il y a certains territoires qui sont confrontés à des crues depuis des semaines. Ils s'en sortent pas. Et c'est vrai que, vu d'ici, où il fait soleil depuis quand même pas. Quelques jours, on a du mal à se projeter dans cet environnement-là. Mais c'est vrai que ça invite à faire réfléchir, quoi. On a beaucoup parlé de la question de l'eau pendant la manifestation des agriculteurs, la nécessité éventuellement pour eux d'avoir des réserves, de constituer des réserves. C'est sûr que on comprend que ça les interroge aujourd'hui quand on voit toute cette eau qui s'amasse et qui va indubitablement disparaître tôt ou tard. Ça nous invite aussi, je pense, à nous aussi à réfléchir à l'importance qu'on donne à l'eau. Ouais. Et peut-être justement à l'importance surtout qu'on ne lui donne pas en matière d'éducation, en matière de vie de tous les jours. Moi, le premier, hein, c'est vrai qu'on... je pense qu'on gaspille trop, clairement, et qu'il y a des choses, il y a des fonctionnements qui sont assez, qui relèvent un peu de l'hérésie dans nos maisons,
quand on est mal habitué, c'est ça que vous dites.
Ouais, clairement, quand on remplit nos toilettes d'eau potable, je me dis que c'est quand même une connerie. Enfin, faut dire les choses. Et malheureusement, je trouve que par exemple, ce sont des choses qui n'apparaissent pas dans toutes les réglementations liées aux constructions de maisons et tout ça. On parle beaucoup d'économie d'énergie, mais pas beaucoup d'économie d'eau. Alors qu'il y aurait des circuits, je pense, assez simples à mettre en place pour justement permettre d'éviter ce gaspillage.
Et que certains pays le font,
et les mécanismes existent, mais c'est juste que comme on ne contraint personne, personne ne le fait, ou peu de gens le font, hormis ceux qui ont vraiment des démarches volontaristes. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'il y a des petites choses simples qui pourraient améliorer notre vie à tous, sachant que l'eau, ce sera sans doute le prochain sujet de crise, sinon mondiale, au moins locale dans certains endroits. Voilà.
C'est vrai que l'eau, c'est une préoccupation. Alors pour vous, Denis Feignier, en tant que maire, on imagine que la gestion aussi de l'eau est une vraie préoccupation quotidienne.
L'eau, effectivement, c'est la vie. Et à la source de la vie, très certainement, il y a quelque chose qui est au-dessus de nous et qu'on peut appeler Dieu. Mais pour en revenir de façon plus pragmatique à la gestion de l'eau, nous sommes dans une communauté d'agglomération depuis 2017, où nous avons repris en 2020 donc la compétence eau-assainissement, et ce sont des budgets énormes. Ce sont des budgets énormes, et avec des enjeux en termes d'aménagement des réseaux, d'amélioration de la qualité de l'eau. Et ce sont des budgets, enfin moi je suis chargé des finances à la communauté d'agglomération, et ce sont des budgets colossaux.
Vous pouvez nous donner un ordre d'idée, parce que pour qu'on se rende compte un petit peu.
Alors c'est entre 15 et 20 millions chaque budget. Voilà, entre 15 et 20 millions d'euros.
Par an,
oui.
Qui sont tout à fait. Dans l'amélioration ou la...
Alors, dans l'amélioration et dans le fonctionnement.
Et dans le fonctionnement. Dans le
pour que chaque usager puisse avoir
de
l'eau propre, de l'eau buvable chez soi, très facilement et très facilement gaspillable aussi, ouais, comme vous dites, Andy.
Et avec un prix uniforme dans les années qui viennent, en tout cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais l'objectif aussi de regrouper dans des communautés XXL les syndicats d'eau et d'assainissement, c'est aussi l'objectif, c'est d'avoir un prix uniforme pour l'ensemble des habitants de la communauté d'agglomération.
Est-ce que, alors, puisqu'on va parler restauration scolaire, je me tourne vers vous, Gisèle Vincent, le côté pédagogique, justement, anti-gaspille de l'eau, est-ce que ça, c'est une question qui est abordée dans les restaurants scolaires? Est-ce qu'on apprend aux enfants à ne pas gaspiller?
Oui, c'est une notion qui est présente tout au long du repas, depuis le moment où ils prennent le plateau jusqu'à ce qu'ils sortent du restaurant scolaire. C'est-à-dire que Alors, je ne sais pas s'il faut parler de l'eau en particulier, mais ça concerne tous les aliments. Ils prennent un peu et ils viennent se resservir s'ils ont encore faim. Donc, je pourrais peut-être parler après du gaspillage alimentaire, du niveau où on était, jusqu'où on est arrivé maintenant. Mais concernant l'eau, ils doivent se servir un verre, mais pas rempli. Et ils viennent se resservir si besoin. Voilà, on apprend aux enfants à utiliser les quantités dont ils ont besoin.
On a quand même avancé sur cette pédagogie.
Si je peux me permettre, c'est quand même pas nécessairement le rôle de l'école, ça. Hein, quand même. L'école est là pour éduquer. L'instruction et le savoir-être, c'est aussi de la responsabilité des familles, quand même. Faut pas tout faire reposer sur l'école tout le temps, quand même.
Alors, cela dit, vous avez raison, mais cela dit, quand un enfant mange à la cantine, il est bien aussi que ce qu'il entend à la cantine soit l'écho de ce qu'il peut entendre, ou du moins ce qu'on espère qu'il entend à la maison. Mais effectivement, et puis il y a les ados qui traînent sous la douche, il faut, voilà, mais on pourra faire une émission spéciale là-dessus.
Même des grands, hein, tu vois ça.
Voilà pour ce sujet de l'eau dont vous vouliez nous parler cette semaine en Diber Radio. Voilà pour ce tour de l'actu, merci. On va marquer une pause musicale et puis on va se retrouver pour aborder cette question de la restauration scolaire. Depuis le temps que l'on souhaitait faire une émission sur le sujet, on est bien content de vous avoir dans nos studios. On se retrouve dans un instant.
You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Désir, 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 désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau, darling. I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, for me. Formi, 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 formidable.
But how can you see me, see me, see me, see me noble?
Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire
dans la langue. Ton nose, tes lips adorables.
Tu n'as pas compris? Tant pis, ne t'en fais pas.
Viens-t'en dans mes bras, darling. I love you, darling. I want you.
Et puis le reste, on s'en fout.
L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
Et cette semaine, dans l'heure de pointe, nous parlons de la restauration scolaire. Tout un vaste sujet qui concerne à la fois l'école, l'éducation, l'enfance, l'environnement, la gestion des finances dans une commune et puis la santé. Et nous en parlons avec nos deux invités, Denis Feignier et Gisèle Vincent. Merci d'être avec nous. Alors, Denis Feignier, vous êtes le maire de la ville d'Ibos. Hein, c'est une ville au nord de Tarbes qui compte 3000 habitants. Une ville dans laquelle vous êtes vous-même aussi élu, Gisèle Vincent, et vous êtes particulièrement en charge de
l'enfance et de la jeunesse. Donc c'est un sujet que la restauration scolaire que vous connaissez bien, et pour cause, puisque vous avez fait le choix dans cette ville de changer complètement de modèle de restauration scolaire depuis 2017. Vous allez nous raconter comment vous êtes passé peut-être d'un modèle classique à un modèle qui fait que les enfants aujourd'hui mangent bio et ou local. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous êtes parti ? Dans quel état était la restauration scolaire à Ibos et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit il faut qu'on change ?
Alors, nous étions, nous travaillons avec un prestataire en liaison chaude, ce qui n'est pas le cas de toutes les communes, mais c'était, ça restait quand même un prestataire avec peu de choix pour nous, peu de marge de manœuvre. Et peu à peu, on s'est dit, on a travaillé avec le prestataire pour essayer d'avoir beaucoup de bio, beaucoup de produits frais et de saison. Et peu à peu, on s'est dit, pourquoi pas la cuisine en régie. Bon, alors ça nécessite une autre vision politique des choses parce que ça, ça a un coût. Et donc, on a continué à travailler avec notre prestataire, mais à un moment donné, le réfectoire était devenu trop petit. On a accueilli de 2014 à 2020, on a accueilli à peu près 120 enfants au départ et on est arrivé à 180 enfants en 2020.
Donc là, on parle d'enfants qui sont en maternelle et primaire. Hein.
Oui. Voilà. Oui. Oui, oui, toute classe confondue, qui déjeunait à la cantine. Donc, il fallait agrandir de toutes les façons. On ne pouvait pas rester dans la configuration où on était. On avait installé un Algeco, mais bon, on a dû réfléchir à autre chose. Donc, on avait décidé d'agrandir la cantine et c'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question de la régie. On s'est dit, pourquoi pas, à ce moment-là, passer en cuisine sur place. Et donc, c'est évidemment toute une réflexion en amont avec tous les élus. Et voilà, il fallait que les élus soient d'accord, que le maire ait envie de porter ce projet aussi, parce que politiquement, c'était quand même important. Et on s'est lancé de cette façon.
Parce que ça veut dire avec une équipe cuisine sur place et donc salariés de la commune.
Oui, on a recruté un cuisinier et ensuite, il y a du personnel qui a fait valoir ses acquis. Et donc du personnel qui peut remplacer le cuisinier pendant les congés ou en cas de période de maladie. Oui, on a recruté un cuisinier.
Alors peut-être que pour les auditeurs, certains se disent, mais en fait, comment c'est possible avec les budgets qui sont, on le sait, serrés dans les municipalités, comment c'est possible de pouvoir faire ce choix-là, d'y arriver, et puis surtout de convaincre le conseil et puis les habitants que c'est possible et que c'est bien.
En fait, au départ, il y a deux éléments. Le premier, c'est une pragmatique, c'est-à-dire, comme le dit Mme Vincent, en fait, on est passé assez rapidement un nombre d'enfants qui mangent à la cantine à un nombre trop important pour la dimension que l'on avait. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la volonté politique. Et depuis 2014... en fait, nous sommes organisés au sein du conseil municipal pour mettre le développement durable, l'éco-responsabilité et la démarche participative au cœur de l'organisation de la municipalité. Et ça, pas seulement dans les questions d'alimentation, mais dans toutes les actions de la vie municipale. Alors, c'est effectivement la restauration scolaire, c'est l'éco-alimentaire E3D, c'est une démarche durable au niveau des ateliers municipaux, c'est la construction de carrés potagers bio, c'est la mise en place d'un réseau de chaleur sur forage géothermique pour chauffer les bâtiments municipaux, etc. Donc en fait, à la base, il y a vraiment cette volonté de s'inscrire dans le développement durable et dans le participatif. Voilà. Alors après, il y a eu quelques éléments déclencheurs, bien entendu. Nous avions fait avec Mme Vincent et Mme Tozon, qui est responsable, qui est adjointe au développement durable, en 2017, nous avons accueilli un forum à Ibos, le premier forum Montagne et défis du 21e siècle, autour du tourisme, et surtout nous l'avons raccroché à l'alimentation, et à l'alimentation durable. Et ce sont les constats aussi qui ont été posés au cours de ce forum. Nous avions par exemple Dominique Bourg, qui est un philosophe et qui en fait, mm-hmm. entre autres, partie de la commission Coppens de la Fondation Nicolas Hulot. Et à partir de ces réflexions, je crois qu'on a convaincu l'ensemble du conseil municipal de se lancer dans une cantine avec restauration sur place.
Andy Barrejo.
Oui, moi, la question que j'ai, et qui est souvent l'argument que renvoient les élus, c'est concrètement, combien ça coûtait avant ? Combien ça coûte aujourd'hui pour la collectivité et pour les familles aussi? Est-ce qu'il y a eu, au final, qui paye ce... Alors, parce que c'est quand même un service qui est supplémentaire. On est d'accord que tous les parents aimeraient que leur gamin mange bio, local, plutôt que ça vienne de 100 km à la ronde.
Je vais parler du coût global pour la collectivité et ma Vincent parlera du coût pour la famille,
ouais.
pour les enfants. Donc au niveau de la collectivité, c'est un projet qui est légèrement au-dessus de 2 millions d'euros. Pour financer ce projet, donc nous avons eu autour d'un million d'euros de subventions, que ce soit de l'État, de la DETR, du conseil départemental, de la région.
2 millions d'euros, c'est pour les infrastructures, c'est ça ?
Oui, les infrastructures.
D'accord.
Et du coup, on a eu à peu près 1 million d'euros donc, de subventions. Ensuite, on a fait un emprunt de 800 000 euros. L'emprunt à IBOS, on le fait essentiellement sur des projets structurants, c'est-à-dire les écoles, la cantine là en l'occurrence. Ça permet effectivement d'étaler l'effort fiscal. C'est une volonté politique qui permet d'étaler l'effort fiscal sur une quinzaine d'années. Donc l'emprunt et ensuite les ressources propres. Voilà, en ce qui concerne le coût au niveau de l'investissement.
Et
après, en fonctionnement, alors bien entendu, on a recruté un cuisinier, on a formé 5 agents donc à la restauration avec cuisine sur place. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui concerne les fluides, l'énergie, etc. Donc là, du coup, c'est un surcoût en termes de frais au niveau du personnel, bien entendu. Mais après, on a fait nos calculs entre le coût du prestataire le coût des denrées et le 0,12, c'est-à-dire les frais de personnel, l'un dans l'autre... En modifiant aussi, mais Vincent va en parler, en modifiant un tout petit peu le prix payé par les familles, eh bien, on arrive à un budget à peu près équivalent. Bien entendu, c'est un effort pour la collectivité, 2 millions d'euros, c'est énorme. Nous, on n'a pas la possibilité sur IBOS de faire 10 projets de 2 millions d'euros. Vous imaginez, on a un budget de 8 millions d'euros en fonctionnement et en investissement. Donc voilà, on en fait deux dans le mandat, des projets comme celui-là.
Alors Gisèle Vincent, pour les familles.
Alors concernant le prix qui est demandé aux familles, il a été très peu augmenté. Pour vous donner un ordre d'idée, le prix du repas était à peu près à 3,20€, 3,40€. Il est passé maintenant à entre 3,40€ et 4,20€ parce qu'on a décidé de faire en fonction des revenus. Donc voilà, le prix des repas s'échelonne de 3,40€ à 4,20€. Et donc le prix n'a pas beaucoup changé, mais c'était aussi une volonté politique de garder à peu près le même prix pour l'ensemble des familles. Et on a instauré également un tarif social pour les familles qui sont défavorisées. C'est-à-dire que le CCAS peut prendre en charge les repas pour des enfants dont les familles ne peuvent pas payer peut-être un repas tous les jours. Donc ça existe. On est passé à 100% bio. La première fois qu'on a augmenté, c'était 50% de produits bio. Là, on avait augmenté un tout petit peu le prix des repas. Je pense qu'on avait augmenté de 5%, quelque chose comme ça. Et quand on est passé à 100%, on a décidé de ne pas augmenter pour les familles. Voilà, donc ça a été un surcoût pour la collectivité, mais c'était une décision politique aussi. Et ensuite, le travail au niveau du gaspillage, il est vraiment énorme. Et ça nous permet de pouvoir rester dans des prix au niveau des produits qu'on achète qui sont presque équivalents à ce qu'on avait avant, fournis par le prestataire.
Ça veut dire que vous proposez à la fois aux enfants de mieux manger, mais aussi d'apprendre à bien manger. Le temps de la cantine est un temps pédagogique. Alors Andy va peut-être dire oui, mais ça c'est aux parents de le faire chez eux, ce qui est vrai bien sûr, mais quand ils mangent à la cantine, il faut pas non plus que ce soit la foire d'empoigne. Est-ce que c'est un moment vraiment pédagogique?
Oui. Oui, oui, la restauration scolaire, c'est pas simplement le contenu de l'assiette, c'est tout ce qu'il y a autour. Et le gaspillage, ça commence avec le cuisinier qui va ajuster les portions. On respecte toutes les normes, mais on sait très bien qu'il y a des aliments, les enfants ne vont pas manger autant que d'autres aliments. Donc c'est ajusté pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. Pour vous donner un ordre d'idée, au niveau national, on est à peu près à 100 grammes de gaspillage par enfant et par jour. Donc ça, c'est assez énorme. Et nous, on était à 60 grammes avant la cuisine en régie et on est à 8 grammes maintenant. Voilà, on est passé à 8 grammes de gaspillage par enfant et par jour. Ça veut dire presque rien.
Pas de chou de Bruxelles, alors
Et si, notre cuisinier... leur a fait découvrir beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de goûter, je pense. Et alors vous dites le chou de Bruxelles, mais je pense au brocoli en gratin.
Chacun son petit souci.
Et les enfants en réclament maintenant. Et on fait aussi des ateliers de découverte du goût entre midi et deux, après le repas, avec le cuisinier. Il y a des jeux qui permettent d'apprendre à connaître les légumes, savoir ce qu'on fait avec, reconnaître des légumes, parce qu'à l'état brut, les enfants ne connaissent pas spécialement à quoi ça ressemble une patate douce, par exemple. Donc, c'est un ensemble de choses. C'est pas que ce qu'il y a dans l'assiette, c'est aussi autour, c'est éviter de gaspiller. Et bon, voilà, ça rejoint l'histoire de réduire les coûts.
Combien d'enfants aujourd'hui mangent à la cantine? Ils bossent
entre 150 et 180. Ça dépend des périodes.
Mais il y a eu un changement. Est-ce qu'il y a des familles qui sont arrivées depuis ce changement en disant bah, tiens, maintenant, puisque je sais qu'enfin mon enfant mangera bien à la cantine, je vais l'inscrire? Est-ce que ça fait
changer les choses ? C'est difficile à vérifier parce que ça peut être aussi des familles qui sont arrivées parce que les parents travaillaient les deux à ce moment-là. C'est difficile de vérifier. Mais
il n'y a pas forcément un retour de la part des familles.
Les retours qu'on a, c'est les familles sont très satisfaites de ce nouveau service. Ce nouveau service, c'est pas le service qui est nouveau, mais la façon,
l'amélioration du service en tous les cas.
Et les enfants aussi, il y a beaucoup de retours. Les enfants disent qu'ils mangent bien à la cantine. On fait chaque trimestre une commission restauration scolaire où on réunit les parents délégués, des enfants qui déjeunent à la cantine, des enseignants, le personnel de la cantine, le représentant du centre de loisirs et les élus. Et là, chacun dit ce qui ne va pas, ce qui va. Et les enfants sont vraiment ravis. Le retour qu'on a, c'est trop bon la cantine. Alors évidemment, ils demandent toujours plus de burgers, des choses comme ça. Mais voilà.
Gérard Croza.
Oui, moi, j'insisterai sur cette idée que le cuisinier fait partie des enseignants, en définitive. Parce qu'il a toute une éducation. Alors, c'est peut-être parce que mon père était cuisinier. Et qu'il s'amusait à dire souvent aux élèves, vous savez, si vous rentrez à la maison avec mal au ventre, on ne vous demandera pas qu'est-ce que tu as fait en maths. On vous demandera qu'est-ce que tu as mangé à midi. Et c'est une question que doit se poser le cuisinier. Et puis, faire découvrir de nouvelles choses. Ne pas rester sur les nouilles et les burgers.
Oui, à la cantine d'Ibos, maintenant, il y a des moules. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de cantines où on sert des moules, des poissons différents, pas les carrés de poissons panés. Et puis, tous les légumes qu'on peut trouver, du fenouil, du vrai céleri.
Alors, justement, d'où ça vient, puisque... l'objectif, c'est aussi qu'ils mangent bio et ou local. Alors, qui sont les producteurs avec lesquels vous travaillez? Est-ce que le cuisinier lui-même fait son marché, va chez le producteur? Quel lien vous avez avec les producteurs?
On a fait une réunion avec tous les producteurs du territoire, donc y compris ceux d'Ibos, pour les associer au projet. Et la majorité d'entre eux participent à notre projet. Et donc, il y a beaucoup d'aliments, de produits qui viennent d'Ibos.
La viande, les légumes, le lait peut-être, les produits laitiers.
Oui, tout vient. Le maximum qu'on a, c'est 100 km. Ça reste dans la région Occitanie, proche. Et voilà, c'était aussi une volonté de travailler avec les acteurs locaux. Alors évidemment, il y a des produits, certains produits secs. Tout à l'heure, on parlait du riz. Il n'y a pas de riz à Ibos. Mais Mais
il y a un marché d'ailleurs, il y a un marché à prendre.
Mais que fait la mairie, que fait la mairie ?
Vous parliez de la responsabilité des familles, de la responsabilité des parents. Notre rôle à nous, c'est vraiment fondamentalement de donner une éducation aux enfants, notamment une éducation au goût, bien entendu. Mais après, c'est sûr que du coup, ça se reporte sur le comportement des parents, une éducation au bien manger, une éducation à préparer des recettes de cuisine, et pour manger sain, en alliant aussi les impératifs écologiques, utiliser les circuits courts, c'est ce que nous faisons avec les producteurs, moins de 100 km, des produits du terroir, en contribuant aussi peut-être modestement à aider au maintien des petites exploitations agricoles locales. Bon, on est en pleine dans la crise agricole, donc là aussi on a notre petit caillou à faire avancer sur le chemin à notre niveau local, et bien entendu à celles et à ceux qui font le choix de la conversion bio.
Et pourquoi du coup, pourquoi d'autres ne le font pas? Ouais, finalement, pourquoi est-ce que vous avez été sollicité, je sais pas, par d'autres collectivités pour voir comment vous y arriviez? Parce que là, on a l'impression un peu que ça relève presque du miracle, alors que finalement, vous nous dites que ça coûte pas vraiment plus cher, hormis un investissement. C'est-à-dire, mais il y a pas mal de cantines qui sont rénovées régulièrement. Pourquoi on n'intègre pas davantage ça, alors qu'il y a 15, 20 ans, enfin, moi quand j'étais gamin, moi, c'est un peu plus maintenant, mais voilà, toutes les cantines étaient. Y avait une cantinière, quoi, ou un cantinier, et c'est vrai que.
On a l'impression, c'est vrai que, en fait, c'est quelque chose d'impossible, d'inaccessible, que, et en fait, vous êtes en train de nous présenter quelque chose de tout à fait réalisable, et en plus, qui fait du bien à tout le monde.
Ça alors, demande beaucoup d'énergie.
Ça demande mais d'énergie d'abord, ou de volonté, vraiment
ça, c'est les deux. Et l'énergie, on l'a si on a la volonté. Et c'est vrai que je vous disais qu'on a structuré notre organisation municipale depuis 2014 avec ses priorités en termes d'éco-responsabilité et de participatif. Et du coup, on le décline à tous les temps et à tous les modes des actions municipales. Et là, depuis des années, la commission enfance, jeunesse, la commission développement durable s'activent, effectivement. Et c'était, voilà, on était convaincus qu'il fallait faire ce pas. Alors, des conseils, nous en avons pris, bien entendu, à l'extérieur aussi. On est allé visiter des cantines. Je parle de la structure, en tout cas. Et effectivement, on a pris des éléments, on a pris des conseils à Séméa, à Juillan et dans d'autres cantines.
Il y a d'autres lieux dans les Hautes-Pyrénées
où il y a des structures similaires. Mais après, dans la démarche d'éco-responsabilité 100% bio, etc., c'est autre chose.
Est-ce qu'on a essayé de vous décourager, c'est peut-être pas le bon mot, mais est-ce qu'on vous a dit attention, là vous vous embarquez dans quelque chose qui va être compliqué, est-ce qu'il y a eu de la résistance?
Non, ça pourrait être de la part de qui? On ne voit pas. C'est juste qu'il faut se dire, est-ce qu'on est prêt à investir autant de millions? Alors peut-être que ça se fait avec moins de 2 millions, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il faut que la commune soit prête à investir autant pour construire la cantine en question? Parce qu'il y a quand même des normes à respecter. Et ça fait longtemps qu'on réfléchit à tout ça. Et la première fois qu'on est allé voir une cantine en régie et qu'on a vu toutes les normes qu'il fallait les respecter, on s'est dit bon, c'est peut-être pas encore le moment, ça nous avait fait un peu peur.
Il fallait le temps que ça mûrisse un petit peu.
Mais voilà, on était tellement convaincus qu'il fallait faire tout ça, que quand s'est présentée l'idée avec l'agrandissement du réfectoire, on s'est dit c'est là ou jamais. Mais il n'y avait personne pour nous décourager, parce que qui peut décourager une
commune... Vous mettre en garde sur l'engagement financier. Mais en fait, on se rend compte que...
Alors, on avait réfléchi en amont, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup travaillé sur le projet, on a fait beaucoup de calculs avant de se lancer, et quand on a été décidé, on savait où on allait.
Gérard Crozat.
Est-ce que ça ne tient pas aussi la faisabilité à la taille de la commune? Je veux dire, une très grande commune, en fait, voit l'enfant d'une manière plus théorique. Que peut-être vous, vous côtoyez dans la...
C'est effectivement, comment dire, c'est un village, enfin, je dis c'est un village, c'est un village de 3000 habitants. Et notre vision de l'aménagement de notre territoire à Ibos, c'est de garder cet esprit de village. Tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour, tout le monde sait tout sur tout. Avantage et inconvénient de la vie d'un village. Mais en même temps, il y a une dynamique, si vous voulez... du vivre ensemble. Au niveau associatif, 30 associations, tout le monde essaye de participer. Et effectivement, je pense qu'une fois qu'on a créé ces conditions-là, c'est un atout. Parce que on a des circuits courts, on a des éleveurs, on a des prestataires autour de notre village. Et après, voilà, c'est une question de volonté. Mais à l'heure, je pense que de plus en plus d'élus locaux vont faire le pas, parce qu'on est quand même à l'heure du consumérisme à tout craint, du manger vite, du manger mal, des produits transformés, de la restauration hors foyer, et du fast-food qui fleurissent un peu partout, pas très loin d'Ibos d'ailleurs, dans la communauté d'agglomération. Et nous voulons affirmer notre volonté avec la cantine, avec Cuisine sur Place, de donner du temps, de donner du sens et du plaisir à la prise d'un repas pour la santé de nos enfants, mais pas que.
C'est important ce que vous dites, ça on n'en parle jamais, manger vite. C'est vrai qu'on mange vite, c'est vrai pour nous au travail, c'est vrai pour nos enfants à la cantine, il faut qu'ils se dépêchent parce qu'il y a le deuxième service. Là aussi, vous avez changé les choses sur cette question-là.
Madame Vincent le dira mieux que moi, mais c'est vrai qu'on a quand même constaté d'abord une augmentation du nombre d'enfants et de présence à la cantine à partir du moment où on a mis en place le self.
Oui. Donc, on avait déjà le self était installé depuis 2014. Donc ça permettait aux enfants de déjeuner dans le temps qu'ils avaient choisi. Mais le réfectoire étant devenu trop petit, c'était un peu difficile. On avait mis en place un deuxième service. Là, on a fait le choix de proposer 300 places assises pour déjeuner. Donc ça veut dire que les 180 enfants maximum qui déjeunent à la cantine passent tous en un seul service. Il y a un réfectoire pour les petits qui sont à part, plus tranquilles qu'avec les grands. Et donc là, les enfants prennent le temps qu'il leur faut pour déjeuner. Certains vont déjeuner plus rapidement parce qu'ils ont envie d'aller jouer
au foot, au rugby.
Voilà. Et puis d'autres prennent du temps, restent à table avec leurs copains. C'est un choix. Chaque enfant choisit comment.
On comprend que tout le contexte est important, en fait. Le contexte du moment du déjeuner est quelque chose, en fait, que vous avez renouvelé aussi ce moment-là, quoi, en fait.
Mais le self, ça permet aussi d'éviter. Je suis assis à table et j'attends qu'on me serve. J'attends que la cuisinière, que le cuisinier arrive. Une certaine autonomie, mais aussi, il n'y a pas de temps, entre guillemets, mort. L'enfant, quand il est à table, il mange. S'il ne mange pas, c'est parce qu'il discute avec ses amis ou qu'il échange à propos de je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, c'est toujours un temps de détente.
Ça, c'est très important.
Vous disiez donc qu'il y avait 300 places. Est-ce que ça veut dire que vous vous êtes mis une réserve aussi, peut-être pour pouvoir servir des repas pour d'autres? Je ne sais pas. Est-ce que pour les aînés, est-ce que parce qu'on parlait du coût de l'investissement, est-ce que par exemple on peut envisager que ça puisse être porté par plusieurs communes pour par exemple, je crois que c'est à Juillan, la cantine de Juillan, qui est donc une autre commune de l'agglomération de Tarbes, qui dessert deux ou trois écoles autour d'elle. Est-ce que aussi pour certaines collectivités, ça peut être ça la clé de diversifier les clients, entre guillemets, c'est moche, c'est un gros mot pour des enfants.
Mais c'est une très bonne question quand même, on dit pas raison.
C'est une option qui serait possible. En tout cas, c'est quelque chose auquel nous avons réfléchi. Il y a eu l'épisode de Covid donc il y a deux ans. Nous avions des personnes vulnérables. On est passé par des circuits pour les repas à domicile, par d'autres circuits. Et donc on s'est posé la question, quand on a fait le projet de la cantine, de dimensionner. Là, aujourd'hui, c'est dimensionné pour accueillir 300 repas. Aujourd'hui, ce que nous sommes dit, la première année, pour l'instant, on travaille avec les enfants. On attaque la deuxième année, on invite les agents municipaux, les personnels, les professeurs d'école, les personnels du centre de loisirs, les élus, à venir manger à midi s'ils le souhaitent. Donc on est sur la deuxième phase là. On teste, on fait une expérimentation sur un an de plus. Et puis après, on verra, on se posera. Mais en tout cas, on avance. Les enfants, les agents, les élus, les personnels du centre loisirs. Et puis après, on verra dans un deuxième temps. Mais après, on est sur quelque chose d'encore plus complexe. avec le portage des repas, parce que ça demande encore des normes encore plus exigeantes.
Et d'autres investissements, parce qu'il faut un camion frigorifique, il faut construire encore des sas pour stocker la nourriture, parce que c'est pas la même chose quand ça doit aller à l'extérieur ou quand ça reste dans le restaurant scolaire. Oui.
Il nous reste quelques minutes encore, alors encore quelques questions aussi. Je voudrais qu'on revienne sur les producteurs. Est-ce que ce nouvel aménagement de la restauration scolaire à Ibos a été aussi l'opportunité pour l'école de créer des temps de rencontre, peut-être la visite de ferme, d'exploitation de la part des enfants? Est-ce que les producteurs viennent à l'école parler de leur métier?
Oui. Alors ça, c'est prévu. Ça n'a pas été encore fait parce que la nouvelle cantine n'a commencé qu'en avril 2023. Donc, elle n'a pas tout à fait un an encore. Mais ce sont des choses qui sont prévues. On le faisait avant avec le prestataire que nous avions. Donc, ça va être facile de le renouveler. On a invité des producteurs à venir parler de la façon dont ils produisaient ce qu'ils fournissaient à la cantine. Mmh. Et ils ont apporté... alors, je ne sais pas si je peux dire le nom du producteur en question, la ferme du Bella avec les yaourts, qui est venu expliquer comment étaient fabriqués les yaourts, mais depuis le lait de la vache, etc. Et ensuite, il y avait une dégustation avec tout un tas de jeux, deviner le parfum de tel yaourt. Et donc ça, on va le renouveler. C'est en cours avec des producteurs. Et le 30 mai, s'il y a des auditeurs qui habitent à Ibos, hein, le 30 mai, nous organisons la fête de la cantine, c'est-à-dire que ça va être des portes ouvertes au restaurant scolaire d'Ibos pour faire découvrir ce qu'est le restaurant scolaire, avec plusieurs producteurs qui fournissent le restaurant scolaire, qui vont venir présenter leurs produits, tenir un stand et expliquer ce qu'ils font pour la cantine d'Ibos.
Donc voilà. Le 30 mai, portes ouvertes au restaurant scolaire d'Ibos.
C'est une sorte d'estéyade du goût.
Oui, c'est ça.
C'est dans 15 jours. Je voudrais juste rajouter un élément par rapport au projet que nous avons réalisé. On parlait tout à l'heure de la sérénité des enfants au moment du repas, et notamment en hiver. Et donc, je parlais de l'augmentation des fluides et du coût de l'énergie. Nous avons mis en place donc un réseau de chaleur avec forage géothermique qui nous permet de distribuer la chaleur dans les bâtiments municipaux qui sont d'abord la cantine, le centre loisirs, la salle Pierre-Commis qui est notre salle polyvalente, et ensuite l'ensemble des écoles. Donc voilà, c'est ce projet de géothermie et de pompe à chaleur, nous l'avons réalisé de façon conjointe avec, en même temps que la construction de la cantine avec cuisine sur place. Et pour nous, c'est très important.
Et on voit bien que quand on bouge à quelque chose dans une municipalité, et bien forcément ça fait tache d'huile, et c'est heureux puisque vous avez pu du coup vraiment vous investir pleinement dans ce mieux vivre à Ibos, finalement, pour les enfants et pour les plus grands. Il nous reste quelques minutes vraiment pour une dernière question, puisque nous sommes entendus dans toute la région Occitanie. Alors, on mange très bien en Bigorre, mais on mange très bien aussi dans plein d'autres lieux d'Occitanie. Peut-être qu'il y a d'autres, des élus qui nous écoutent, ou voilà, des parents qui sont engagés dans les associations des parents d'élèves, par exemple, et qui ont envie que ça bouge au niveau de la restauration scolaire de l'école de leur enfant. Quel conseil vous pourriez donner l'un et l'autre pour que les choses puissent se faire un petit peu plus facilement dans plus de lieux?
Alors je crois que j'ai déjà répondu, il me semble, en tout cas c'est une question de volonté politique, c'est-à-dire que lorsqu'on est élu, qu'on a en charge un territoire, il y a des éléments de contexte, il y a une évolution sociétale qu'il faut prendre en compte. Et voilà, ensuite, volonté politique, engagement, être opiniâtre, ne pas céder aux sirènes consuméristes ou à la facilité, et puis l'engagement, je crois aussi, le collectif, C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire, c'est pas une personne qui peut créer ce genre de mouvement. C'est l'ensemble d'un conseil municipal, c'est des associations autour, c'est des gens qui ont...
Les parents d'élèves aussi qui peuvent être moteurs, qui peuvent enclencher le processus.
Il faut qu'il y ait une prise de conscience collective.
Mais il faut que les personnes, que les élus ou ceux qui sont intéressés par tout ça aillent... Enfin, rencontrer des communes où ça se fait. Donc on les invite à venir à IBOS pour voir comment ça se passe et on sera ravis de leur donner des conseils s'ils ont envie d'avoir des conseils.
Le 30 mai par exemple, les portes ouvertes, d'autres élus peuvent venir voir, des parents peuvent venir voir, c'est ouvert largement.
Alors,
c'est réservé
à toute l'Occitanie,
public.
On va se contenter de la Bigorre. Ce qui est ouvert à toute l'Occitanie, c'est la Esteillade, qui aura lieu dans 15 jours. J'invite toute l'Occitanie.
Alors, en deux mots, qu'est-ce que c'est que la Esteillade? Puisque vous êtes là, c'est quand même dommage de partir sans nous raconter.
Alors, la Esteillade, c'est une manifestation, c'est la 45e Esteillade de Bigorre, et manifestation qui est donc organisée par une association qui s'appelle les Plantagues d'Ibos, depuis 45 ans, et qui accueille, rassemble toutes les chorales qui chantent en gascon, un chant traditionnel du département et au-delà du département.
Vous y serez, Gérard Crozat?
Je l'écoute parfois, oui.
Andy Barégeau.
C'est possible.
Immanquable. Moi, j'y vais tous les ans pour écouter un fameux groupe qui s'appelle Avisapé, de la vallée de Batte-sur-Guerre. Et voilà, ce rendez-vous est pour tout le monde, dans l'Occitanie. Voilà, la STA de Bigorre à IBOS. Merci beaucoup à tous les deux. Denis Feignier, vous êtes donc le maire de ce charmant village de 3000 habitants, IBOS. Gisèle Vincent, vous êtes élue également à IBOS. Vous êtes adjointe en charge de l'enfance et de la jeunesse. Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui dans cette heure de pointe pour nous parler de la restauration scolaire. Merci Andy Barégeau, merci Gérard Crozat. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission avec Gilles Galbardi à la technique. Merci et très bon week-end à tous.
L'heure de pointe. Anne-Rose Jankovic.